Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sous Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est une maladie du cerveau, le plus souvent une maladie du grand âge, silencieuse d'abord, puis envahissante et aujourd'hui encore incurable. La maladie d'Alzheimer affecte le patient et son entourage, souvent dépassé par les changements qui s'installent, les attitudes imprévues, les comportements déroutants. Aujourd'hui, en France, 900 000 personnes souffrent de cette dégénérescence des neurones, une maladie dont la fréquence augmente avec l'âge pour concerner 15% de la population à partir de 80 ans, une personne sur trois après 85 ans. Maladresse, hésitation, des gestes simples, impossibles à effectuer, troubles du langage, de l'humeur, confusion spatio-temporelle. Et quand se pose la question de la perte de l'autonomie, c'est toute une réorganisation du quotidien qui s'impose, que les proches assument seuls quand ils le peuvent ou en compagnie d'une aide à domicile tant qu'il est possible de maintenir le patient dans son environnement. Des proches qui souvent découvrent la maladie et son évolution en même temps que celle ou celui avec qui ils ont partagé leur vie et qui aujourd'hui ne les reconnaît parfois plus. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, avec nous en studio le docteur Christophe Trival, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes praticien hospitalier, responsable de l'unité soins de suite et réadaptation Alzheimer à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Et vous êtes aussi l'auteur de 101 conseils pour être bien dans son âge et dans sa tête, publié aux éditions Robert Laffont. Également avec nous en studio, Christiane Brison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière à la retraite, éducatrice spécialisée, assistante de vie à domicile, auteur d'Accompagner un proche Alzheimer et préparer une aide à domicile, publiée aux éditions Erol. Tout à l'heure, nous allons joindre au téléphone Elisabeth qui souffre de la maladie. Elle fait partie de l'association France Alzheimer. Et en deuxième partie d'émission, nous serons en ligne avec le docteur Abdelkader Andia, interniste gériatre au service de médecine interne à l'hôpital général de référence de Niamey au Niger. En fin d'émission, notre bulletin de santé pour passer en revue les temps forts de l'actualité sanitaire de cette semaine, avec bien sûr à la une les réactions après la réforme du système de santé qui a été annoncée, présentée mardi à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron, et puis les premiers cas de peste saisonnière à Madagascar. Vos questions, vos témoignages, notre numéro, le 33 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Journée mondiale et aujourd'hui, docteur Christophe Trival, un quotidien français, le journal Libération pour ne pas le nommer, consacre sa une à Alzheimer en posant cette question. Faut-il parler de maladie, sous-entendant il ne s'agirait que d'un déclin lié à l'âge? Comment est-ce que vous réagissez à ce point de vue?
Ben là, c'est un peu une discussion actuelle de dire que finalement la maladie d'Alzheimer n'existe pas et que c'est simplement l'âge. Plus on vieillit et plus on perd la mémoire et que tout le monde finirait par devenir un peu gaga avec l'âge. Donc je sais pas si c'est la bonne présentation et le bon discours. Il y a beaucoup d'arguments qui font dire que la maladie d'Alzheimer est une vraie maladie. Après, c'est un peu aussi l'histoire de cette maladie. Parce que quand elle a été décrite en 1906-1907 par Alois Alzheimer, ça concernait des gens jeunes. C'est vrai que pendant très longtemps, on a dit la maladie d'Alzheimer, c'est les problèmes de mémoire des gens avant 60 ans. Et puis dans les années 80-90, on a vu que finalement, dans les cerveaux des gens âgés, on retrouvait les mêmes lésions que celles qu'on retrouvait dans les gens plus jeunes. Et du coup, on a dit, c'est la même maladie, avec peut-être des facteurs favorisants quand elle apparaît chez les gens jeunes et probablement des facteurs génétiques.
En tout cas, est-ce que ce débat, docteur Trival, il divise le corps médical, en particulier dans votre spécialité, la gériatrie?
Globalement, la gériatrie ou la neurologie, tout le monde est plutôt d'accord pour dire que Alzheimer est une vraie maladie. Après, il y a plutôt une personne qui est un peu contre ça, quoi, un peu toute seule. Mais après, c'est pas inintéressant d'avoir un débat sur le phénomène sociétal, quoi. Quel est le rôle de la société? Quelle est la vision de la société par rapport aux gens âgés? Voilà. Mais il faut pas dire que le fait de dire vous avez une maladie d'Alzheimer, c'est pour isoler les gens, les médicaliser et les mettre dans des maisons de retraite. C'est pas vrai.
Ce serait aussi donner aux médecins, entre guillemets, un mauvais rôle, parce que c'était pas ça. Eux aussi, ils travaillent de concert quand il faut aussi envisager l'accompagnement, parfois en extrême cas le placement, mais tout ça se fait dans une communauté de soignants.
Mais les médecins généralistes, les médecins spécialistes qui s'intéressent vraiment à cette maladie, qui s'occupent de ces malades-là, l'objectif c'est de pouvoir faire qu'ils restent à la maison le plus longtemps possible, dans leur environnement habituel, avec leur famille, et dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est l'objectif de tout le monde, des aides-soignants, des auxiliaires de vie, des gens qui accompagnent à domicile, tout le monde, l'objectif c'est de faire que le malade il se sente le mieux possible chez lui. Donc après... Il y a des cas où l'évolution de la maladie fait que même avec la meilleure volonté du monde, on n'arrive pas à garder les gens à domicile jusqu'au bout.
Docteur Christophe Trival, quand un malade arrive chez vous, en général, il a quel signe ? Est-ce qu'il vient de son propre chef ou est-ce que c'est quelqu'un de sa famille qui l'accompagne ?
En consultation mémoire, la plupart du temps, c'est la famille qui demande la consultation mémoire. Alors elle passe des fois par le médecin généraliste, pas toujours, mais au bout d'un moment, parce que déjà il y a un discours qui est dit c'est lâche, c'est normal de perdre la mémoire, mais la famille à un moment elle s'inquiète et elle trouve que quand même le comportement n'est pas normal. Et donc c'est elle qui amène la personne à consulter, parce qu'en fait il y a deux types de consultation mémoire. Il y a souvent des gens un peu plus jeunes, 50, 60 ans, qui disent j'ai des problèmes de mémoire, je vais consulter pour me rassurer. Et souvent ça c'est de l'anxiété, c'est plus des problèmes de concentration que des problèmes de mémoire. Et les gens qui ont une vraie maladie de la mémoire, eux n'en ont pas conscience finalement, et là c'est plutôt l'entourage qui s'en rend compte.
Alors justement, quand ce diagnostic est posé, docteur Trival, à qui vous l'annoncez ? Vous l'annoncez au patient ou à sa famille ?
Il y a beaucoup de discussions là-dessus. Moi, il me semble en tout cas qu'il y a un consensus pour dire qu'il faut toujours annoncer la maladie au patient. Et après, dans cette maladie-là, ce qui se passe, c'est que vous pouvez dire à la personne vous avez la maladie d'Alzheimer, et quand vous la revoyez à la consultation d'après, elle a oublié que vous lui avez annoncé le diagnostic. Après, on n'est pas là pour répéter et redire la même chose. On le dit une fois, et après, on considère que le message a été passé.
Alors, cette maladie du grand âge, on l'a compris, elle pose aussi des questions de fond à la société. Vu le nombre de personnes concernées, 900 000 malades en France, des patients, tout l'entourage aussi qui est impacté. Christiane Brison, vous avez géré pendant 15 ans un service dédié justement à ces malades et à des assistantes de vie qui sont spécialisées. Comment d'infirmière on passe infirmière spécialisée Alzheimer ?
Alors, infirmière, j'ai été infirmière auparavant, mais j'ai joué le rôle d'assistante de vie. C'est-à-dire, il faut s'occuper de la personne, aussi bien dans tous les actes de la vie quotidienne. La toilette, la préparation des repas, les sorties, continuer à la stimuler, maintenir son autonomie. Donc, j'ai fait ce métier-là. J'étais pas en tant qu'infirmière, mais en tant qu'assistante de vie, ce qui est quand même différent.
Est-ce qu'on donne les moyens, aujourd'hui, à l'entourage pour faire face à la maladie, Christiane Brison?
Il manque beaucoup, je pense, de moyens financiers. Quant aux moyens humains, je pense, pour avoir vécu ça pendant de nombreuses années, que les assistantes de vie et d'autres professionnels ne sont pas suffisamment formés sur cette maladie. On ne peut pas envoyer une personne à domicile si elle ne connaît pas la maladie, si elle ne connaît pas l'histoire de vie de la malade qu'elle va accompagner. Donc il faut vraiment une formation pour ce personnel. Donc pour moi, il manque beaucoup de moyens au niveau du moyen humain. Il manque cette formation.
Alors justement, pour comprendre ce qui se passe, je conseille la lecture de votre livre « Accompagner un proche Alzheimer ». C'est un guide, c'est aussi poignant parce qu'il y a beaucoup de témoignages. On comprend en entendant ces récits de vie exactement ce qui se passe. Justement, vous citez une relation triangulaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors, une personne qui va entrer au domicile, une assistante de vie qui intervient au domicile d'un couple, il va se jouer une relation triangulaire. Elle vient bousculer l'intimité du couple. Donc, pour que les choses se passent bien, il faut vraiment préparer l'intervention, bien définir les besoins de la personne, bien cibler ce que chacun doit faire. Des fois, les conjoints veulent garder certaines actions auprès de leur mari ou femme.
Par exemple, la toilette.
Par exemple, la toilette. Alors, parfois, ils délèguent parce que ça change un petit peu le cadre de leur relation. D'époux à épouse, on devient soignant-soigné. Donc, certains ne le souhaitent pas. Et d'autres, s'ils le souhaitent, c'est à respecter par l'assistante de vie qui pourra, à ce moment-là, intervenir en périphérie pour d'autres actes plus périphériques, comme préparer le repas, faire des courses, etc.
Alors, justement, vous donnez la parole à ces assistantes aide à domicile, Christiane Brison, ces femmes qu'on entend assez peu habituellement, et on sent vraiment cet attachement très particulier. On a même des fois l'impression que la relation est plus difficile avec la famille qu'avec le malade, finalement, avec qui ça se passe plutôt bien.
Oui, en général, ça peut arriver, effectivement, parce que elles, leur objectif, c'est vraiment d'accompagner la personne malade. Elles sont là pour... Mais en même temps, c'est important pour un vivre ensemble harmonieux qu'elles aient, effectivement, une bonne relation avec la famille. Donc, il faut poser des règles de vie pour un vivre ensemble très précises au niveau de cet accompagnement.
Docteur Trival, est-ce que le médecin a son mot à dire? Est-ce qu'il intervient directement quand à un moment il faut dire là il faut vous faire aider, une famille vient en consultation, vous ressentez cet épuisement dans l'entourage, est-ce que vous intervenez dans une fonction de conseil à ce moment-là?
Dans les centres de consultation mémoire, justement, dans l'évaluation du patient, il y a une partie où on évalue le patient et sa maladie, voir à quel stade il en est, mais il y a une autre partie où on évalue les difficultés de la famille, de l'aidant, quoi. Et on regarde si l'aidant, justement, il tient le coup, ou s'il est en train de faire un peu un burn-out, ça existe aussi, hein. Donc, et on essaye de conseiller de prendre des aides. Mais ça, c'est extrêmement difficile à domicile, en réalité, parce qu'il y a un refus des personnes, la personne malade, des fois de la personne qui n'est pas malade, de faire venir des étrangers à la maison, quoi. Enfin, étrangers au sens large. Et donc, du coup, y a souvent, ça prend énormément de temps. On en parle très tôt, puis des fois, c'est au bout de 2 ans qu'ils acceptent enfin qu'il y ait quelqu'un qui mette le pied, après quelqu'un d'autre. Souvent, ils acceptent l'infirmière, mais avant qu'il y ait les soins, etc., c'est au corps, la toilette, etc., c'est beaucoup plus difficile.
Docteur Trival, Christiane Brison, restez avec nous tout de suite, un témoignage.
Priorité santé sur RFI.
Et on retrouve en ligne Elisabeth. Bonjour madame.
Bonjour.
Je vous désigne par votre prénom parce que vous l'avez demandé, bien évidemment, pas par manque de respect. Votre époux est à vos côtés, Jean-Marc. Monsieur, vous pouvez intervenir si nécessaire. Alors, Elisabeth, vous faites partie de l'association France Alzheimer. Vous êtes donc vous-même touchée par la maladie. Oui. Depuis combien de temps?
3-4 ans, me dit mon mari, parce que moi je me rappelle pas.
Oui, c'est bien pour ça qu'on compte sur lui pour vous épauler. Hein. Alors, quels sont chez vous, est-ce que vous vous souvenez, c'est difficile à chaque fois qu'on pose cette question, des premiers symptômes ou aujourd'hui, quand vous vous êtes levé, est-ce que vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu compliquées à faire depuis ce matin?
Depuis ce matin?
Oui.
J'ai fait comme d'habitude et j'ai pas trouvé ça compliqué. Mais c'est vrai que je suis toujours maintenant... aux aguets, pour moi. J'essaye d'être comme tout le monde, quoi.
Et justement, quand vous vous levez le matin, vous faites tout un tas de gestes habituels. Vous avez une petite routine avec votre mari, justement, pour être rassurée, pour bien vous sentir, Elisabeth?
Alors, écoutez, quand je me lève le matin, c'est que je suis bien. J'essaye de me regarder, entre guillemets, pour continuer à être comme je pense avoir été, parce que j'ai pas envie de rien faire pour moi, quoi, carrément.
Vous dites, quand ça va bien, je me lève, ça veut dire que certains jours, vous auriez plutôt envie de rester au lit parce que vous vous sentez un petit peu découragé, non? Ou vous avez toujours l'énergie pour vous lever, pour aller vers cette journée qui commence?
À mon avis, j'ai l'énergie pour me lever. Si je suis réveillée, avec j'ai un livre, je lis. Mais si j'en ai pas, je me lève, je déjeune et puis je me mets en route pour la journée, quoi.
Et dans cette journée, Elisabeth, vous suivez des activités particulières pour vous stimuler, pour freiner l'évolution de la maladie?
Pour freiner, ça veut dire...
Par exemple, est-ce que vous sortez en promenade? Est-ce que vous avez des activités avec une orthophoniste ou un ergothérapeute?
J'ai pas avec ces personnes là, mais l'orthophoniste, mon mari à côté.
Oui, oui. Il peut intervenir sans souci. C'est vraiment, il peut vous aider. C'est pas un problème.
Oui. Tu me dis qu'est-ce que
tu as vu un orthophoniste un certain temps?
Ah oui.
Vous êtes allé à des...
Mais j'ai un club d'amis.
Oui.
Je vais une fois par semaine, qui font de la peinture, et j'y vais une fois par semaine, radieuse, contente, pas douée du tout pour ça, mais j'aime quand même en faire.
Voilà. C'est important, en tout cas, de sortir de chez soi.
Oui, oui. Mais je travaille plus, mais avant, je travaillais. Et je me demande si ça, tout ça, ça m'a passé par la tête. Je me demande si si je travaillais, est-ce que je serais quand même Alzheimer maintenant.
Vous posez des questions sur l'arrêt de l'activité. On a le docteur Christophe Trival à cette table. Justement, on dit souvent que le passage à la retraite, c'est un moment clé dans la maladie. Qu'est-ce que l'on sait de cette justement de ce passage?
Mais, enfin, le passage à la retraite, c'est un moment clé pour pas que pour la maladie d'Alzheimer ou les problèmes de mémoire, pour toute la suite de sa vie. Quoi. C'est un passage qui doit être quelque chose qui doit être bien préparé, anticipé et avoir prévu un peu des activités. Quoi, si on avait des hobbies avant de pouvoir les développer. Et on sait quand même que les gens qui prolongent leur activité de travail, alors évidemment, c'est pas un métier pénible et difficile, mais ceux qui arrivent à prolonger le plus longtemps possible, finalement, ça retarde effectivement le début de la maladie.
Elisabeth, une dernière question. Vous faites partie de l'association France Alzheimer. Ça veut dire quoi pour quelqu'un comme vous, pour quelqu'un de malade, de faire partie de ce groupe de personnes, avec des personnes qui travaillent pour faire connaître la maladie, pour informer, et d'autres personnes malades?
Écoutez, déjà la première chose, c'est que mon mari s'occupe s'est occupé de se débrouiller pour tout ça, donc je ferai ce qu'il me dira à ce niveau-là. J'ai une très grosse conscience
en lui.
Oui. Et puis, comme il se débat pour tout ça, je l'accompagne avec tout ce que je peux le faire toute seule.
En tout cas,
je parle très mal.
Non, vous parlez très bien. Et quand on vous entend, en tout cas, on sent bien que vous avez quelqu'un qui vous soutient et qui est vraiment présent pour vous. On vous salue tous les deux en vous souhaitant une très bonne journée. Merci infiniment.
Merci, madame.
Merci à vous. Beaucoup, merci, très bonne journée. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Christophe Trival, unité soins de suite réadaptation à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Qu'est-ce que c'est exactement la nature de ces activités de réadaptation pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer?
Ben, les activités de réadaptation, c'est-à-dire que quand on fait un diagnostic, on va proposer différentes choses. On propose quand même encore un peu de façon systématique d'essayer le traitement quand même. Et après, dans tout ce qui est proposé à chaque fois, il y a toujours de l'orthophonie. L'orthophonie, elles font de la rééducation de la mémoire et du langage, parce qu'il y a quand même beaucoup de troubles du langage. Et justement, sur des exercices, et essayer des exercices pratiques qui correspondent à des besoins de la vie quotidienne. Après, le problème, c'est de trouver des orthophonistes disponibles, et ça, il y a un peu une pénurie d'orthophonistes. Et après, dans les autres choses qui ont été mises en place avec les plans Alzheimer, notamment, il y a les équipes spécialisées Alzheimer maintenant, ESA. Et là, c'est des psychomotriciennes ou des ergothérapeutes. C'est sur prescription médicale, les deux, là, c'est sur prescription médicale, c'est que ça veut dire que c'est pris en charge à 100%, il n'y a rien à payer. Et les équipes spécialisées Alzheimer, on a le droit à 15 séances par an.
Donc, c'est des choses qui se sont installées récemment, ce protocole?
Oui, ça date du dernier plan Alzheimer 2008-2012, ça, les équipes spécialisées Alzheimer. Et donc là, c'est en général des SIAD ou d'autres structures qui sont porteuses de ces équipes. Et c'est une psychomotricienne, une ergothérapeute qui vient au domicile. Elle vient au domicile et elle fait une évaluation avec le malade de ses difficultés dans la vie quotidienne. Et après, il y a un plan de rééducation. Mais il faut avoir un certain niveau de fonction cognitive, quoi. Si la maladie est trop évoluée, elles pourront pas intervenir.
Christiane Brison, quand on parle de la maladie d'Alzheimer, justement, on parle de la dépendance, l'épreuve pour le patient, bien sûr, pour son entourage aussi, ce qu'il faut trouver comme force pour mobiliser, pour faire face. Est-ce que ça s'apprend aussi, vous parliez tout à l'heure de la formation des aidants, mais la formation des familles? Est-ce qu'il y a des recours vers qui se tourner?
Alors, France Alzheimer, par exemple, et pas que, propose effectivement des formations pour les aidants familiaux comme pour les aidants professionnels. Et effectivement, il y a un certain nombre de comportements à privilégier dans cette maladie pour faciliter la communication avec le malade et améliorer la relation. Notamment, il faut respecter ses besoins fondamentaux qui est, par exemple, que le malade a besoin de se sentir utile. Donc ça le valorise, il remonte l'estime de lui, c'est très important. Il faut le laisser faire ce qu'il sait encore faire et s'appuyer sur ses capacités restantes. Donc ça maintient son autonomie. Du coup, il se sent utile, il a l'estime de lui, il participe. La famille peut l'associer à ce qu'il fait. Je donne un exemple d'ailleurs dans mon livre où il y a la femme qui demande à son mari de faire la vaisselle. Il l'a fait une fois, il l'a refait une deuxième fois. Elle le laisse faire en lui disant « mais c'est très bien mon chéri, t'as très bien fait, etc. » Donc le maintien de l'autonomie passe par effectivement ces stimulations et par une façon de communiquer, d'être en relation avec eux, avec des attitudes à
cultiver, à apprendre, parce que par exemple, vous dites très souvent ne pas contrer.
Absolument. Là, il faut vraiment éviter d'entrer en conflit. Alors, il y a une technique qui a été mise au point par Naomi Fell, mais je pense que nous tous, on le fait dans notre vie quotidienne, c'est qu'il faut accueillir ce que la personne dit. Elle, de son point de vue, elle suit sa logique interne, donc pour elle, elle a raison à un endroit. Donc, il faut prendre en compte ce qu'elle dit, l'accueillir, sentir l'émotion avec laquelle elle le dit, donc, et puis reformuler et valider. Par exemple, j'ai pas envie de faire ma toilette. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon chéri? T'as pas envie aujourd'hui de faire ta toilette? Faut aller enquêter, interroger le refus d'un acte proposé, ce qui permet d'éviter d'être en tension avec le malade et qui peut, solutionner une situation. Si la personne veut pas faire sa toilette à un moment donné, on peut différer. On peut dire, bon, bah, écoute, on la fera un petit peu plus tard.
Je vous écoute, mais je vous dis, il faut des ressources de patience incroyables, d'adaptation incroyable. Il y a des personnes, surtout quand elles arrivent à un certain âge, elles sont pas capables de supporter ça. En plus, la personne qu'elles ont toujours connue, qu'elles ont longtemps aimée, se retrouve comme ça. Ça doit être quelque chose de très dur à intégrer, ces choses-là.
C'est difficile à intégrer. Il y a une blessure chez l'aidant familial qui est absolument énorme. Et c'est pour ça que l'on encourage les familles à avoir de l'aide. Parce que les médecins, en général, évaluent le degré d'épuisement de la personne. Et si elles font venir une personne à domicile, ça doit se faire d'une manière très progressive. Elles vont en être soulagées. Elles vont pouvoir créer un partenariat avec l'aide de vie, la personne malade et elle-même. Et créer un vivre ensemble qui va favoriser la communication, les soulager, elles, et qui sera au bénéfice de l'accompagnement de la personne.
Avec des préoccupations en France et ailleurs, on va prendre tout de suite en ligne Edith Emery. Bonjour Edith.
Oui, bonjour.
On vous écoute Edith.
Oui, merci de me passer la parole. Donc, je voulais surtout parler de l'association ACMA, Association Comprend la maladie d'Alzheimer, dont je suis la présidente, et auteure du livre Aidant les aidants du monde, Alzheimer en Afrique. Donc, j'aimerais signaler que la maladie d'Alzheimer aujourd'hui, c'est un réel problème de santé publique en Afrique. Et je pense que l'autorité ignore ce fait. Je pense que c'est pas une conviction, mais c'est surtout un fait réel. Parce que je suis au devant depuis 2 ans aujourd'hui et je me rends compte que cette population souffre.
Et vous êtes témoin de cette situation dans quel pays en particulier?
Au Cameroun en particulier, mais en Afrique de manière générale, parce qu'on est un groupe de la diaspora africaine, en fait.
Et justement, qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce qu'il y a d'abord? On entend souvent qu'il y a moins de maladies d'Alzheimer en Afrique. Est-ce qu'il y a justement des études épidémiologiques qui permettraient de le savoir? Vous, c'est une expérience de terrain. Ça se base sur quoi exactement, votre travail, votre approche?
Mon approche se base sur il y a cela 2 ans, on a mis un groupe en place, en fait, pour parler de la maladie. Alors, on a été stupéfait de voir combien de personnes qui arrivaient et parlaient de la maladie de leurs proches. On ne peut pas parler d'études, de statistiques au niveau de l'Afrique aujourd'hui parce que, pour moi, il y a un manque de formation. On diagnostique encore la pathologie sur l'effet clinique alors que les personnes on a des personnes malades en Afrique. Je suis confrontée aux appels tous les jours parce que j'en ai fait un combat et via ce combat-là, les personnes m'appellent généralement pour me parler de leurs proches. Il faut comprendre que de nos jours, ils en parlent pas parce qu'ils ont encore. On a ce problème d'ignorance là en Afrique. Donc, la maladie est considérée. L'ignorance sur cette maladie fait des dégâts considérables en fait, parce que les personnes considèrent les malades atteints de démence comme des fous, des sorcières, et du coup les gens cachent leurs malades, les gens n'en parlent pas alors qu'ils souffrent. On a des personnes qui sont enchaînées, enfermées, qui sont battues dans les rues parce qu'ils sont traités de sorcières en fait. Donc on ne peut pas faire avoir de bonnes statistiques à ce niveau si on n'a pas de spécialistes formés pour diagnostiquer la pathologie.
Un problème d'identification, un problème aussi de ressources pour faire face à la situation. On vous remercie beaucoup, Edith Emery. J'aimerais qu'on puisse prendre un auditeur qui est à Lomé. C'est Djimada. Djimada, bonjour.
Bonjour, Claire.
C'est Caroline, mais c'est pas grave. On écoute votre question, Djimada.
Ouais. Merci tout d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez.
On vous écoute.
De pouvoir éclairer ma lanterne à propos de certaines questions.
On vous
Je
écoute.
Je voudrais savoir pourquoi le nom Alzheimer qui a été donné à la maladie. Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est de savoir si principalement le mal a pour cible les personnes âgées. Est-ce qu'il n'y aurait pas, au niveau des personnes moins âgées, des cas, accessoirement? Voilà les deux questions pour lesquelles je voudrais un peu plus d'éclaircissement.
Alors, pour y répondre, le docteur Christophe Trival, qui est avec nous, d'abord sur le nom Alzheimer.
Le nom Alzheimer, c'est le médecin qui a décrit la première fois les lésions au niveau du cerveau. Hein.
Voilà.
Après, c'est un collègue à lui qui a dit, on va appeler ça la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si c'était pour lui faire plaisir ou pas. C'était plutôt, je crois, pour l'embêter qu'autre chose.
Et alors, la deuxième question qui est très intéressante, quand on parle de maladie d'Alzheimer précoce, est-ce que c'est encore Alzheimer ou ce sont d'autres maladies?
C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer, au départ, avec Aloïs Alzheimer, on considérait que c'était les gens de moins de 60 ans. Et que, pendant longtemps, on considérait qu'après 60 ans, c'était la démence sénile, on disait, c'était lié à l'âge. Puis après, on s'est aperçu que c'était la même maladie. Après, les formes très jeunes, ce sont des formes qui sont, en général, familiales et génétiques. C'est-à-dire qu'il y a des anomalies très précises sur certains chromosomes qui font qu'il y a la maladie d'Alzheimer. Mais qui entraînent les mêmes lésions cérébrales que chez les gens plus âgés.
Voilà pour ces deux réponses, Djimada. On vous souhaite une très bonne journée à Lomé. Il y a des symptômes qui peuvent surprendre pour les personnes qui ne sont pas habituées. Peut-être même qu'elles ont des questions qu'elles n'osent pas vous poser. Moi, je vais vous les poser. Pourquoi certains malades sont-ils agressifs?
L'agressivité, des fois, ça dépend aussi du type de la maladie. Il y a peut-être, on dit Alzheimer, là, mais il y a des démences à la maladie de Parkinson, il y a la maladie à Cord-Lévy, il y a les démences vasculaires. Il y a différentes formes de pathologies.
C'est
de
parce qu'il y a une partie du cerveau qui est touchée, qui excite, on va dire, des réactions.
L'agressivité, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Brison. Là, en fait, elle est souvent provoquée par le conjoint, par l'aidant, par le soignant, par l'extérieur. Si les gens n'ont pas compris que dans la maladie d'Alzheimer, les gens oublient, ne comprennent pas ce qui se passe. On arrive, il est 8h, ah ben c'est l'heure de la toilette, allez, hop, on vous déshabille, on vous met sous la douche, on va avoir de l'agressivité. Et à la maison, c'est pareil. Si le conjoint lui dit ah ben, je t'ai déjà dit 10 fois, écoute, je t'ai dit, il faut poser les clés ici, pas là, etc., ça va entraîner de l'agressivité. Et c'est dans la façon souvent d'aborder le malade. Si le malade, il veut pas faire quelque chose à un moment donné, eh ben, on le fait pas. Et puis on réessaye 5 minutes après, ou une heure après, ou voilà. Ou s'il veut pas prendre sa douche le matin et qu'il a envie de la prendre l'après-midi, on lui donne l'après-midi. S'il veut laver la vaisselle 2 fois, il lave la vaisselle 2 fois. Et le tout, c'est que c'est la personne qui n'est pas malade qui doit être vraiment très compliante, ce qui demande un effort assez important. Et effectivement, tous les aidants ne comprennent pas la maladie. Il y en a qui pensent que le malade le fait exprès. Il fait exprès pour l'embêter, il fait exprès pour lui casser les pieds. Et c'est pas du tout ça.
Alors, on parle d'aidants, et puis il y a parfois le besoin d'un placement. Christiane Brison, comment ça se passe, justement? On est à la maison, d'abord seul, à soutenir son proche, son ami, son compagnon qui est malade, puis quelqu'un vient nous aider à la maison, et puis à un moment donné, on dit « je n'y arrive plus ». Ou est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui dit « là, il va falloir changer les choses ».
Alors, ça dépend déjà si il s'agit d'un couple ou pas. Au niveau d'un couple, il se peut que le conjoint soit complètement épuisé et à ce moment-là, effectivement, il va envisager le placement. Soit, si la personne est seule à son domicile, soutenue quand même par un entourage, par des aides à domicile, par de la famille qui vient, les enfants qui viennent, ils se rendent compte que la personne ne peut plus rester seule. Alors, ce qui est important de faire, c'est déjà d'interroger la personne malade et lui demander quel est son souhait. Est-ce qu'elle accepterait d'être dans un lieu bien entouré ou bien est-ce qu'elle préférerait rester seule? Et puis après, il faut donc tenir compte au niveau d'un couple du degré d'épuisement de la personne, peut-être des conditions de santé. Il y a aussi les conditions financières qui rentrent en ligne de compte. Donc il y a énormément de facteurs qui des fois amènent à placer. Et ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'on a fait un placement, c'est très difficile de revenir en arrière. Donc il faut bien étudier les causes d'un placement pour pas se louper, entre guillemets. Et si la personne, vraiment, on se rend compte que ça rassemble toutes les conditions, à ce moment-là, il ne faut pas non plus que les familles culpabilisent, mais elles peuvent tout à fait accompagner les personnes à l'hôpital ou en placement pour garder vraiment un lien, parce que ça, c'est extrêmement important pour la personne malade.
Docteur Christophe Trival, depuis le 1er août dernier, un certain nombre de médicaments prescrits, ou est-ce que c'est la totalité, qui ne sont plus pris en charge par l'assurance maladie en France, en cause une efficacité insuffisante, selon les experts de la Haute Autorité de Santé. Comment vous avez perçu cette décision? Et puis, deuxième question, bien sûr, comment les malades ont perçu cette décision?
Ben les médicaments, enfin c'est les quatre médicaments de qui étaient utilisés dans la maladie d'Alzheimer qui sont déremboursés depuis le 1er août. Après, le manque d'efficacité, il y a un discours qui a été fait par la HAS, par certains médecins, par certaines revues, journaux, etc., où du coup le message est quand même assez passé dans la population générale, comme quoi, un, les médicaments sont inefficaces, et deux, ils sont dangereux. Dans la pratique, quand on s'en sert, un, ils sont pas totalement inefficaces, ils avaient une petite action, et les études qui avaient été faites avaient été bien faites. Et la dangerosité, elle est, on sait qu'il y a des effets secondaires, on sait les manager, il y a pas, ils entraînent pas la mort.
Vous continuez à en prescrire?
Nous, alors, ceux qui en avaient, et qui sont d'accord pour payer maintenant, ben, ils continuent. Et donc, on en a, enfin, moi, toutes les semaines, quand je leur propose, je leur dis, mais c'est plus remboursé, vous voulez continuer, et ils sont d'accord pour continuer. Après, sur les nouveaux patients, pour leur dire, on va vous prescrire un médicament qui est pas remboursé, qui coûte au minimum 22 € par mois, là, ça va dépendre un peu du porte-monnaie, quand même. Et puis, après, des arguments, on a un petit document qu'on leur remet pour qu'ils réfléchissent et voir si pour eux, ça a un intérêt ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un problème purement franco-français, quoi. Parce que dans le monde entier, les recommandations, le en 2017, ils ont fait une revue énorme, 70 pages de la littérature, et dans leur recommandation, le troisième point, c'est il faut donner les traitements. Et dans les autres pays, ils sont encore remboursés, ils sont largement utilisés. Il y a même des dosages différents dans les autres pays, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux dosages supplémentaires qui sont apparus qu'on n'a jamais eu en France. Donc, et dans la recherche aussi, le fait de ne plus avoir ces traitements, ça nous handicape beaucoup, quoi. Donc voilà.
Pourquoi? Pour l'observation?
Enfin, pour faire des études, quoi. D'accord. Pour dire, si on fait les études en comparant à ces traitements-là, ben on peut plus les faire parce que les malades n'ont plus ces traitements-là. Donc voilà, et on fait plus de recherche nous sur ces médicaments-là. S'il y a un nouveau dosage, il y a un médicament qui était à 10 mg, dans d'autres pays il existe un dosage à 21 mg, nous on peut pas le, on l'a jamais eu ce médicament-là.
Donc c'est quelque chose que vous regrettez?
Ben je regrette parce que du coup la France va sortir un petit peu d'une partie de cette recherche-là quand même, et c'est un petit peu dommage. Moi j'aurais préféré qu'on continue à les rembourser jusqu'à ce qu'on ait un vrai médicament efficace.
Parce que pour l'instant justement, vous me permettez d'aboutir sur cette question sur la recherche. Oui. On a parlé de la prise en charge à travers des exercices, des séances de réadaptation, des séances de rééducation. Du côté des médicaments, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et est-ce qu'il y a des espoirs?
Ben, il y a énormément de recherches quand même, hein, qui sont faites, mais par contre, il y a énormément d'abandon aussi, quoi. C'est-à-dire que chaque fois que dans les journaux on dit, ah, ça y est, on a trouvé le médicament, si on lit l'article, on voit que c'est chez la souris, quoi. Donc, mais la souris, elle développe pas la maladie d'Alzheimer, il faut faire des souris transgéniques pour qu'elle développe la maladie d'Alzheimer. Donc, on arrive à guérir des souris qu'on a nous-mêmes modifiées pour qu'elles fassent la maladie. Et après, quand on fait les essais chez l'homme, en phase 3, souvent, ben, les essais sont arrêtés. Donc là, il y a plusieurs essais récemment qui ont été arrêtés. Il y a encore des essais en cours. Il y a quand même encore ce qu'on appelait le vaccin avec des anticorps anti-amyloïdes. Donc ça, il y a encore une molécule qui a l'essai.
Ce sont ces plaques qui s'installent, voilà, dans le cerveau et qui bloquent.
On arrive à détruire avec des anticorps. Donc ça, il y a encore une molécule qui a l'essai. Mais la plupart des autres ont été abandonnés. Et la question, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que les médicaments, on dit, ils marchent pas, mais peut-être qu'on les donnait trop tard aussi. Parce que quand on fait le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, la maladie, elle évolue déjà depuis 10 ou 20 ans. Si on prend certains marqueurs biologiques, on sait qu'ils étaient présents 20 ans avant qu'on fasse le diagnostic. Et donc, quand on fait le diagnostic, elle a énormément évolué déjà, la maladie. Et donc, peut-être que donner les médicaments à ce moment-là, c'est trop tard. Peut-être que si on les avait donnés avec un marqueur précoce, on aurait été plus efficace.
Vous restez avec nous, on va maintenant prendre la direction du Niger.
Priorité santé sur RFI.
Pour retrouver le docteur Abdelkader Andia, bonjour docteur.
Bonjour madame Caroline.
Vous êtes interniste gériatre au service de médecine interne à l'hôpital général de référence de Niamey au Niger. Est-ce que vous avez, docteur Andia, des chiffres, des données pour savoir quelle est la proportion de la population infectée par la maladie au Niger?
Alors bonjour madame Caroline, bonjour docteur Christophe et tous nos auditeurs.
Bonjour.
Alors c'est un réel plaisir pour nous, à l'occasion de la journée mondiale dédiée à cette maladie très handicapante, d'en parler, surtout de nos spécificités en Afrique, et aussi en amont préciser que la gériatrie, finalement, c'est une discipline qui est un peu nouvelle chez nous. Donc, même au niveau des agents de santé en général, ils perçoivent très peu ce que c'est que cette maladie, cette discipline, surtout dans un contexte de transition démographique un peu timide chez nous, la population africaine étant globalement
très jeune.
Et donc, du coup, par rapport à votre question, s'il faut préciser la prévalence chez nous, nous n'avons pas de prévalence nationale, mais nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous avons des séries hospitalières et à domicile. Par exemple, dans la capitale, à Niamey, nous avons à domicile 2 patients sur 10 et en milieu hospitalier, 4 patients sur 10 chez lesquels nous avons une altération des fonctions cognitives. Alors, altération des fonctions cognitives et d'autres déficits mental ne sous-entend pas totalement la maladie d'Alzheimer. Nous sommes confrontés plutôt à l'un des critères qui est finalement de faire un diagnostic différentiel, c'est-à-dire de capter tout ce qui n'est pas maladie d'Alzheimer au niveau du système nerveux central, les maladies neurovasculaires, la Parkinson, etc., etc. Et donc, pour ça, nous n'avons pas d'imagerie assez performante par rapport à l'accès, mais également par rapport à la disponibilité. Donc, du coup, sur les quelques patients que nous avons authentiques Alzheimer, ils ne sont pas très représentatifs et nous les suivons quand même. Donc, on ne peut pas parler de prévalence, mais quand même, on a des indications sur le plan hospitalier et amène.
Vous les suivez, docteur Andier, vous proposez quelle prise en charge? Est-ce que vous donnez, par exemple, des médicaments?
Oui, bien, écoutez, les médicaments dont nous disposons, les médicaments, la prise en charge médicamenteuse classique qui rend la disponibilité de l'acétylcholine au niveau du cerveau, elle est décevante, mais aussi l'accès, la continuité, des fois les patients sont enclins à abandonner le médicament. Mais plutôt le plus important, c'est vraiment la prise en charge non médicamenteuse qui, chez nous, il n'y a pas de politique par rapport à cela, c'est pas codifié. Les aidants ne sont pas formés. Finalement, c'est la famille. Ça va dans tous les sens et vraiment, on a l'abandon. Et des fois, le patient, le père, pas des petits problèmes de comorbidité, de prise en charge, de soins, de nursing. Le plus souvent, c'est ce qui aboutit. Mais la prise en charge médicamenteuse, elle est un peu décevante et l'accès reste limité.
Merci beaucoup, docteur Abdelkader Andia. Je rappelle que vous êtes interniste gériatre au service de médecine interne de l'hôpital général de référence de Niamey. Et ce que vous nous dites, eh bien, rejoint le témoignage tout à l'heure de Edith Emery, qui avait donc lancé cette association pour sensibiliser la population à la maladie d'Alzheimer sur le continent africain.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Docteur Trival, est-ce que vous diriez aujourd'hui que la prise en charge des malades d'Alzheimer s'est améliorée?
Oui, je voulais juste dire un mot sur le problème africain et puis des pays en voie de développement quand même. C'est parce que il y a encore certains pays d'Afrique où l'espérance de vie à naissance, elle est de 30 ans. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup de gens très âgés. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en 2060, 80% des gens de plus de 65 ans, ils seront dans les pays en voie de développement. Et donc forcément, qu'ils vont avoir une explosion des maladies de la mémoire, des pathologies de type Alzheimer. Et c'est vrai que c'est bien qu'ils en prennent conscience maintenant. Nous, moi, je m'occupe d'une revue de neurologie, psychiatrie, gériatrie. On essaye de publier un petit peu justement des études. On a publié des études au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, sur la maladie d'Alzheimer, où il commence à y avoir une prise de conscience. Il y a un peu le problème aussi dans les pays du Maghreb, parce qu'ils n'ont pas non plus les structures, alors qu'eux, déjà, ils sont encore avancés, ils commencent à en avoir beaucoup. Et sur les progrès, sur la prise en charge, il y a eu 3 plans Alzheimer. Enfin, le nouveau plan Alzheimer s'appelle maladie neurodégénérative. Il est un peu plus vaste. Et là, du coup, on voit moins de progrès, je trouve. Mais sur les 3 premiers plans, et en particulier le plan de Monsieur Sarkozy, on peut dire ça comme ça quand même. Il y a eu quand même d'énormes progrès. Je vous ai dit tout à l'heure les équipes spécialisées Alzheimer. Dans les choses les plus anciennes, il y avait eu d'abord les consultations mémoire, les CM2R, les centres de recherche mémoire, ressources et mémoire. Il y a eu les accueils de jour qui se sont énormément développés. développer. Donc ça, c'est une aide aussi pour soulager les aidants, justement. Et il y en a maintenant à peu près partout. Dans le troisième plan, il y a eu les plateformes aidants, d'accompagnement des aidants, qui font un peu un travail comme France Alzheimer, qui fait des formations pour les aidants. Les plateformes accompagnement, il y a des formations aussi. C'est-à-dire, c'est apprendre aux conjoints, aux enfants, etc., ce que c'est que la maladie, comment s'y prendre pour éviter les conflits. Et dans ces plateformes, il y a des psychologues qui interviennent, il peut y avoir du soutien psychologique. Il y a des sorties aussi qui sont organisées pour rompre l'isolement, parce que souvent, les couples aidants malades ont tendance à s'isoler, à plus sortir, à plus aller au restaurant, à plus aller au musée, à plus aller au cinéma, etc. Donc, il y a des sorties comme ça qui sont organisées. Donc voilà, il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites. Et il y a les... Bon, les Mayas elles-mêmes, c'est pas un énorme progrès, mais par contre, dans les Mayas, il y a les gestionnaires de cas. Donc, c'est des personnes pour aider les gens isolés aussi. Parce que si vous êtes isolé, vous avez peu de chances de rester à domicile.
Christiane Brison, ce sera le mot de la fin. Vous avez pas mal d'expérience. Qu'est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on comprend mieux la maladie ? Est-ce qu'on comprend mieux les malades d'Alzheimer ?
C'est difficile de dire. Je pense que, comme disait le docteur Trival, il manque vraiment de formation pour l'ensemble des personnes. Par rapport aux assistantes de vie que j'ai encadrées, hein, qui est vraiment du personnel des fois qui reste dans l'ombre, je me rendais compte moi-même sur le terrain qu'il n'y avait pas suffisamment d'accompagnement. C'est des gens qui travaillent d'une manière isolée, qui sont assez seuls et qui ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Il y a un petit livre de témoignage qui s'appelle Assistante de vie, un métier dans l'ombre, qui est édité à la Cause des Livres, où les personnes témoignent de leur vécu et de la relation qu'elles engagent avec les personnes malades. Et c'est un ouvrage extrêmement prenant et émouvant, et je le recommande pour que les gens puissent connaître ce public qui est souvent caché.
Merci beaucoup, merci Christiane Brison. Je rappelle le titre de votre propre ouvrage, Accompagner un proche Alzheimer, préparer une aide à domicile, publié aux éditions Erol. Merci d'avoir répondu. Merci à toutes ces questions. Et à vous, docteur Christophe Trival, praticien hospitalier, responsable de l'unité soins de suite réadaptation à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Vous avez signé 101 conseils pour être bien dans son âge et dans sa tête aux éditions Robert Laffont.
Bulletin de santé.
On se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine. Un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie. Julie Trangeval, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et on commence avec la réforme du système de santé. Elle a été présentée par le président français Emmanuel Macron. Annonce et réaction. On en avait parlé dans Priorité Santé, c'était mardi.
Réforme pour un budget global de 3,4 milliards d'euros sur 5 ans, 400 millions d'euros cette année. Parmi les mesures annoncées, le financement de 400 postes de généralistes dans les déserts médicaux et 4000 postes d'assistants médicaux. Incité à l'exercice groupé en structure ou en réseau, la suppression du numerus clausus pour les études de médecine.
Voilà pour ce plan à l'horizon 2022, qui prévoit aussi des changements dans la carte hospitalière. Avec Juliette, côté réaction, des encouragements, mais aussi pas mal de critiques.
Encouragement sur le constat de crise et l'esprit général des mesures, mais regret du côté de la Fédération des médecins de France et de son président, Jean-Paul Hamon, qui estime que le gouvernement n'a pas saisi l'ampleur de la catastrophe. Et, je cite, joue petit bras. Critique aussi du côté du président de la Fédération hospitalière de France, qui calcule que 400 millions d'euros supplémentaires à répartir sur l'ensemble des professionnels de santé, c'est à peine la moitié de l'effort demandé aux hôpitaux en 2018.
Réaction des centrales syndicales également.
Pour la CGT, ce que propose le président de la République ne répond en rien aux besoins d'une reconstruction de notre système de santé. Et la CFDT tempère des annonces positives, mais qui se heurte à un financement insuffisant. Et du côté de l'ordre des infirmiers, enfin, on regrette des annonces très médico-centrées, autrement dit, pas assez ouvertes sur les autres praticiens et acteurs de santé.
Et toujours en France, le monde de la santé secoué par une nouvelle affaire de bizutage.
Oui, ça s'est passé au CHU de Toulouse. 250 élèves infirmiers concernés par cette séance de pseudo-initiation associée à des brimades le 5 septembre dernier. Ces étudiants infirmiers de première année avaient été réunis dans un amphithéâtre, liés deux à deux avec du ruban adhésif, et badigeonnés, aspergés d'aliments divers, de liquides ou de solutions iodées, certains contraints de porter des couches sur la tête pratique dégradante et intolérable, selon la ministre de l'Enseignement supérieur. Le dossier a été transmis au procureur de la République à la suite d'une enquête interne.
Et toujours en France, Juliette, un numéro vert pour répondre aux interrogations des patients traités par Androcur.
Annonce hier de l'Agence du médicament, l'ANSM. Ce médicament qui bloque l'activité des hormones mâles, augmente le risque de développer des méningiomes, des tumeurs au cerveau. Un risque multiplié par 7 pour les personnes traitées à haute dose plus de 6 mois. Ce numéro vert accessible gratuitement la journée pendant la semaine en France, c'est le 0805 04 01 10.
On répète ce numéro, hein, le 0805 04 01 10. Maintenant, Juliette, direction l'océan Indien, où hier, le ministre malgache de la Santé s'est voulu plutôt rassurant hein, après l'annonce des premiers cas de peste cette saison dans la Grande Île.
Le ministre estime que la situation est sous contrôle. Du 1er août au 17 septembre, 13 cas suspects de peste ont été recensés, 3 cas confirmés ainsi que 2 décès. Des cas signalés à plus de 300 km au sud de la capitale. Les autorités malgaches indiquent avoir mis en place un plan d'attaque pour éviter une nouvelle épidémie de grande ampleur, à l'instar de celle qui l'an passé avait fait plus de 200 morts. À Antananarive, les précisions de Laetitia Bezin.
Campagne de sensibilisation à la télévision et à la radio nationale, antibiotiques déjà disponibles au niveau des districts, désinfection et désinsectisation. C'est notamment avec ces mesures que les autorités malgaches espèrent éviter une nouvelle épidémie de peste. Le docteur Manch Rakutu Arivun, directeur de la promotion de la santé de ce ministère, demande aussi la coopération des sociétés de transport en commun.
Tout transporteur doit inscrire les noms de passagers, leurs contacts téléphoniques, en cas où il y a une personne atteinte dans le car. C'est notre problème parce qu'il y a plusieurs coopératives qui n'utilisent pas ce cahier.
Un problème de taille puisque c'est de cette manière que la peste s'est propagée l'année dernière, un passager atteint de la maladie ayant contaminé d'autres passagers. L'urgence est ensuite de retrouver toutes les personnes en contact pour pouvoir faire un traitement préventif. Parmi les 8 cas de peste recensés cette année, 4 sont des cas de peste pulmonaire. Une information qui préoccupe le docteur Manch Rakutu Arivun.
Sans traitement, les pestes buboniques se transforment en peste pulmonaire. Et c'est pour ça que l'équipe du ministère s'inquiète parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas passées pour prendre le traitement. Ça nous pose beaucoup de problèmes parce que les praticiens n'utilisent pas des médicaments, ils utilisent d'autres méthodes pas efficaces.
Inciter la population à se faire traiter chez un médecin, c'est le défi des autorités. La première forme de peste, la bubonique, transmise par les puces des rats, est la moins dangereuse. La peste pulmonaire, elle, se transmet d'homme à homme par des gouttelettes de salive. Très contagieuse, elle peut être mortelle en seulement 48 heures. Laetitia Bezin, Antananarive ou RFI.
En Afrique de l'Ouest, fermeture de plusieurs centrales pharmaceutiques privées à Niamey, la capitale du Niger.
Décision du ministère nigérien de la Santé, mercredi. Elle vise 6 grossistes pour absence de contrôle de qualité. En cause, des médicaments douteux ou périmés, des approvisionnements dans des dépôts illégaux et auprès de vendeurs ambulants. Fermeture assortie d'avertissements pour 6 autres centrales qui, elles, ont reçu des mises en demeure.
Et on termine avec ce bilan hein, donné par les autorités canadiennes. 8000 décès en 2 ans dans l'État nord-américain, 8000 morts par surdose ou overdose d'opiacés.
Et la crise ne s'atténue pas. Des décès essentiellement accidentels par surdosage d'analgésiques et 2 provinces de l'Ouest, la Colombie-Britannique et l'Alberta, concernées au premier plan. Certains usagers succombent dès la première prise. Parmi les produits en cause, le fentanyl, la Colombie-Britannique a lancé fin août des poursuites contre plus de 40 entreprises qui fabriquent ces médicaments opiacés.
Merci beaucoup Juliette Rangeval et à très bientôt sur l'antenne de RFI. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ophélie Lassène, Baptiste Madinier, Didier Bleu, Laurence Lonneau aujourd'hui aussi avec nous. Et lundi dans Priorité Santé, on va parler des maladies cardiovasculaires. On attend vos témoignages et bien sûr toutes vos questions. Le numéro de l'émission 33 84 22 75 75 et aussi sur notre page Facebook.
C'était
écoutez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.